Je ne vous demande pas si vous avez vos Bibles. C'est tellement évident. Et puis, ce qui est important, c'est, au-delà de l'avoir d'une manière physique, c'est surtout eh bien, l'avoir serré dans notre cœur. Et je voudrais encore particulièrement m'adresser à des personnes qui, ce matin, seraient peut-être fatiguées, épuisées physiquement, moralement, peut-être même spirituellement, à cause peut-être de certaines épreuves, certaines adversités que vous êtes en train de traverser. Et je crois que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour et plein de compassion, plein de bienveillance à notre égard. Et ce qu'il désire, c'est ni plus ni moins, eh bien vous fortifier, mon frère, ma sœur, pour tous peut-être qui, eh bien être sollicités, malmenés peut-être par différentes adversités. Le Seigneur voudrait ce matin nous conseiller. Est-ce que nous aimons les conseils de Dieu ? Ah. Alors pour ce faire, je voudrais eh bien vous encourager, eh bien et vous inviter à pouvoir lire un texte qui sera notre texte de référence, notre texte d'introduction dans Ésaïe chapitre 30 et le verset 15. On va juste s'en tenir à ce verset ce matin. Ésaïe chapitre 30 et le verset 15. Je vous laisse le temps peut-être de le chercher avec moi. C'est bien d'avoir la parole de Dieu eh bien sous nos yeux. Ésaïe chapitre 30 et le verset 15. L'avez-vous trouvé ? Alors, merci Seigneur, il y a aussi la technique, donc vous l'avez aussi derrière mon dos. Donc, merci Seigneur pour ceux qui travaillent aussi à la sono et à la vidéoprojection. Ésaïe, chapitre 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais vous ne l'avez pas voulu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces quelques lignes, quelques versets que nous venons de lire, Seigneur. Oui, tu veux apporter un conseil à ton peuple, à celui particulièrement qui est fatigué, épuisé. Et nous voudrions être attentifs à ce que tu veux nous dire et ne laisser à terre aucune de tes paroles tomber. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. De nous être réceptifs et recevoir ta parole avec douceur. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Cette merveilleuse parole, elle a été adressée en son temps au peuple de Dieu, plus particulièrement au peuple de Jérusalem. Et pour cause, eh bien, ce peuple eh bien, était en train de vivre une terrible épreuve. Quelle était cette épreuve ? La ville de Jérusalem était encerclée, était assiégée par les troupes assyriennes. C'est alors que les habitants de Jérusalem étaient en proie peut-être à la panique, à l'angoisse, en voyant eh bien, donc ces troupes assyriennes assiégées eh bien, la ville là où ils se trouvaient. Dieu a dépêché des prophètes, entre autres le prophète Ésaïe, pour tranquilliser, rassurer le cœur eh bien, du peuple de Dieu. Et Dieu a transmis par ses serviteurs eh bien, de précieux conseils qu'ils n'ont pas voulu suivre. C'est ce que nous avons lu d'ailleurs, si ça peut être à nouveau projeté au verset 15, juste à la fin. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Dieu dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Et c'est là que c'est dramatique. Et en effet, on comprend, et c'est l'histoire qu'il raconte, à ce moment où ils étaient eh bien, affolés par toutes ces troupes assyriennes qui assiégeaient eh bien, leur ville, les habitants de Jérusalem ont préféré chercher de l'aide vers d'autres nations. Et ils ont pensé à les troupes militaires égyptiennes. Mais ça a été un mauvais choix. Je dis un mauvais choix parce que eh bien, par la suite, eh bien, nous découvrons dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est que finalement, les armées assyriennes ont eu gain de cause, les habitants de Jérusalem. Et pire encore, vous savez qu'ils ont été déportés, ils ont été emmenés captifs à Babylone, et là-bas, ils sont restés près de 70 ans en captivité. Frères et sœurs, nous avons tout à gagner à écouter les conseils de Dieu. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quelquefois, nous n'y prenons pas garde. Mais ce matin, si nous sommes là, c'est pour être aussi réceptifs. Je crois qu'il a entendu nos louanges. Il a entendu lorsque nous avons élevé la voix, lorsque eh bien, nous avons prié ou chanté. Mais il est important pour nous, eh bien, en retour, de pouvoir être attentifs à ce qu'il nous dit. Surtout pour eh bien, celui qui est en train de se débattre avec eh bien, peut-être des luttes, des combats. Et cela vous épuise, cela vous fatigue. Vous ne savez même pas comment vous êtes arrivé aujourd'hui ici en ces lieux. Mais Dieu le sait. Il a permis par sa grâce et par son Esprit Saint que vous puissiez diriger vos pas dans la maison de Dieu. Oh, c'est vrai, vous n'avez pas eu la force de pouvoir chanter, vous n'avez pas cœur de chanter. Vous êtes fatigué. Mais le Seigneur, eh bien, aujourd'hui, veut vous donner pleinement ce conseil de pouvoir pleinement, eh bien, placer toute votre foi et votre confiance en Dieu. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera, alléluia, votre force. Et pour n'avoir pas écouté ce conseil, malheureusement, le peuple de Jérusalem a eu de lourdes conséquences. Il s'est passé pour eux ce que a pu dire leur grand roi Salomon, vous savez, l'homme le plus sage au monde, dans son livre Les Proverbes, Proverbes chapitre 1, versets 30 à 33. Il leur est arrivé la chose suivante, « Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais voilà ce qui nous intéresse. Celui qui m'écoute, dit Dieu, reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Plaise à Dieu que ce verset 33 soit notre partage à chacun d'entre nous. Que nous puissions vivre tranquille, que nous puissions vivre dans cette sérénité, malgré les agissements de l'ennemi, même malgré ses attaques, malgré les épreuves qui pourraient croiser notre route, que nous puissions vivre tranquille et sans craindre aucun mal. Et pour cela, écoutons le conseil que Dieu nous donne. Alors quel est ce conseil que Dieu nous donne au travers de ce passage d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Alors je vais être très simple ce matin avec vous. Ce conseil, il peut être résumé en deux mots. Deux mots très simples qui peuvent être quelque part deux mots clés, deux maîtres mots, deux mots d'ordre. On pourrait continuer comme ça la liste. Juste deux mots. Quels sont ces mots? Calme et confiance. Et je précise, en notre Dieu. Calme et confiance en notre Dieu. La version Bible français courant est encore plus explicite que la version Louis II qu'on a placée là devant nos yeux. Dans la version Bible français courant, Ésaïe 30, verset 15 dit la chose suivante. « Voici ce que déclare le Seigneur Dieu, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. » Et je souligne, votre seule force, c'est de garder quoi ? Votre calme et de me faire confiance. Et il rajoute, hélas, mais vous ne le voulez pas. Ce matin, si nous sommes là, c'est parce qu'on veut. Hein ? On veut plus que jamais garder notre calme et mettre notre confiance en Dieu. Alors j'aimerais juste m'attarder sur ces deux points. Le premier conseil que Dieu nous laisse, c'est le fait de garder notre calme. En hébreu, c'est le mot « shakat » qui a été traduit par le mot « calme ». Mais vous savez que les mots hébreux sont très riches. Et ce mot « shakat », on aurait pu aussi le traduire par les phrases suivantes. « Être en repos »,« Être apaisé »,« Être dans la quiétude »,« Être dans la tranquillité et la paix ». Mon frère, ma sœur, lorsque l'adversité, lorsque l'épreuve vient, Dieu nous invite à pouvoir plus que jamais garder notre calme et finalement être en repos et non dans l'agitation. Mais il faut qu'on se l'avoue ce matin. Ce n'est pas toujours évident de garder notre calme lorsqu'on est malmené par les épreuves. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce n'est pas toujours évident de garder son calme quand nous sommes victimes, par exemple, d'injustice. À qui c'est déjà arrivé? Je ne vais pas vous demander de lever le doigt. On pourrait le faire. C'est pas toujours évident de garder son calme lorsqu'on est victime d'abus, lorsqu'on est victime de tromperies. C'est pas évident de garder son calme lorsque, quelque part, nos valeurs sont bafouées. Ou peut-être même nos objectifs ne sont pas atteints. On s'y est repris jusqu'à 9, 10 fois et à nouveau on a échoué. Difficile de garder son calme. Difficile de garder son calme lorsque notre propre vie est menacée. Ce qui est sûr et certain, nous avons tous les uns les autres, à un moment donné de notre vie, eh bien, à un moment donné, connu ce moment d'agitation, ce moment de contrariété ou même de colère, tout simplement parce que nous avons perdu notre calme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et s'il y en a, ça n'est jamais arrivé, ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Parce que, bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, on le sait. Il y a aussi des épreuves, des difficultés qui peuvent quelquefois nous surprendre. Et là, on perd le calme. Un peu comme, allez, premier exemple, c'est celui de Marthe. Marthe, la sœur de qui? De Marie et de Lazare. Pensez pas qu'à un moment donné, elle a perdu son calme? Quand elle a invité, avec un beau carton d'invitation, le Seigneur Jésus. Et Jésus est venu, bien sûr, avec ses disciples. Alors, ils étaient au minimum 13, mais peut-être y avait-il d'autres personnes. Et il fallait, eh bien, comme il se doit, accueillir le Seigneur Jésus. Si demain, le Seigneur Jésus, en chair en os, venait chez vous, mais mes amis, c'est les petits plats dans les grands plats, oui ou non? Eh oui! Regardez, lisons ensemble son histoire. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Ce sera très rapide. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider !» Et c'est alors que le Seigneur, il intervient. Le Seigneur lui dit, et lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Mais il renchérit en disant, « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors il faudrait qu'on plonge dans cette histoire, mes amis, et qu'on essaye de se projeter. Et cette femme, eh bien, qui a tout fait pour pouvoir, eh bien, véritablement honorer le Seigneur à sa juste valeur, entre, et puis, et donc, Marthe installe le Seigneur Jésus. Et très rapidement, Marie, qui est certainement la petite sœur, s'est assise là au pied du Seigneur. Et on voit Marthe qui circule de la pièce de la cuisine jusque, justement, à la salle à manger. Elle met les plats, en même temps, elle regarde si le gigot est prêt, si le veau est bien cuit, etc., etc. Et puis, à un moment donné, la Bible, on l'a lu ensemble, elle survint. C'était plus fort qu'elle. Jusqu'à maintenant, elle s'était contenue. Elle avait gardé son calme, mais là, c'est trop fort. Elle survint et peut-être qu'elle coupe la conversation. Seigneur, à mon avis, il faut que ça sorte. Remarquez, vaut mieux que ça sorte. Parce que les implosions intérieures, c'est pas toujours bon. Hein. Mais cette femme, elle dit, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Je la vois pointer du doigt, sa sœur. Dis-lui donc de m'aider. On sent, on le voit bien, elle a perdu son calme. Elle arrivait au bout du bout, elle n'en peut plus. Et certainement qu'elle était dépassée bien par tout ce qu'elle devait faire. Et c'est alors que le Seigneur vient à sa rescousse. Le Seigneur, il est plein de compassion, plein de miséricorde. Il est patient avec nous. Hein. Je le vois avec ma propre vie. Je pense que vous le voyez également avec votre propre vie. Et le Seigneur va l'aider à retrouver son calme. Et il a fallu à deux reprises que le Seigneur dise à Marthe, « Marthe !» Et si il s'est repris à deux reprises, il a dit « Marthe, Marthe !» C'est parce que la première fois, elle n'a pas entendu, elle n'a pas compris. Elle était là dans son agitation, elle était affolée. « Seigneur, blablabla !» Il commençait à parler. Vous avez compris que c'était un résumé. Mais peut-être qu'elle a dit plus que ce qu'il le fallait. Et Jésus a dû dire « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Vous savez, quand on est dans l'inquiétude, quand on a perdu le calme, on ne peut pas écouter Dieu. C'est juste impossible. On est dans l'agitation, on fouille les papiers, où j'ai mis ça, où j'en suis, et qu'est-ce qui va m'arriver demain, lundi, oh, je vais rencontrer le patron, qu'est-ce que je vais lui dire? Marthe, Marthe, mon fils, ma fille, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et Dieu, le Seigneur Jésus en profite pour apporter un enseignement pour Marthe, mais finalement un enseignement pour chacun d'entre nous. Il va dire, juste après, au verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Jésus en profite pour révéler à Marthe, et puis finalement à chacun d'entre nous, que l'attitude qu'a adoptée Marie, j'en suis sûr, dès le départ, dès que Jésus est arrivé, plaf, elle s'est mise à ses pieds pour écouter la parole qui sortait de sa bouche. Son attitude à Marie, elle doit quelque part dans notre vie prédominer toutes les autres attitudes, aussi pieuses soient-elles, que nous pourrions bien manifester à l'égard du Seigneur. Alors n'allez pas me dire ce que je n'ai pas dit. Marthe a eu raison de pouvoir s'affairer à toutes ces choses pour honorer le Seigneur. Il est bon de pouvoir servir Dieu. Mais il est bon aussi de se placer au pied du Seigneur, dans le calme, dans la sérénité, pour entendre ce qu'il a à nous dire. Parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Ce matin, il avait quelque chose à te dire, mon frère, ma sœur. Peut-être toi qui es épuisé, il avait quelque chose à te dire. C'est pour ça qu'il a permis que tu viennes. Pourtant, tu n'avais pas à cœur de venir. Mais tu es venu quand même. Parce qu'il avait fixé un rendez-vous pour toi. Oui, j'insiste, Dieu désire que nous apprenions à toujours garder notre calme. Dans toutes les circonstances qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté à un conflit avec une tierce personne? Et là, vous voyez, les paroles qui commencent à prendre des décibels. Vous voyez que là, vous êtes dans un conflit houleux. Et ce n'est pas toujours évident de garder son calme à ce moment-là. Quand on vous crie dessus, ça vous monte au nez. Mais regardez ce que dit la Bible, Proverbes chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle excite, bien sûr, la colère. Une réponse douce calme la fureur. Vous êtes dans un conflit. Vous voyez la personne qui vocifère devant vous, qui crie, et plein d'animosité. Et si vous répondez avec une réponse calme, apaisée, vous allez voir que vous êtes capable de désamorcer. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais il y a de fortes chances que ça puisse désamorcer la situation. C'est le grand roi Salomon qui s'est permis de le dire. Lui, l'homme le plus sage au monde. Il dit une réponse douce, calme la fureur. Mais encore faut-il, quelque part, que nous puissions être calmes, garder notre calme. Parce que si on ne garde pas notre calme, comment pourrons-nous apporter une réponse douce? C'est juste impossible. Autre exemple, il est important de garder notre calme lorsque, nous connaissons des épreuves, des adversités. Alors ce que je dis, c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? Dieu peut nous donner à traverser n'importe quelle épreuve. Il dit même dans le psaume 23, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Dieu dit qu'il est avec nous. Il est avec nous, non pas pour que nous restions là, nous morfondre dans cette vallée de l'ombre de la mort, mais juste pour arriver à traverser et en sortir plus que vainqueur. Oui, dans l'adversité, nous sommes capables de garder notre calme avec notre Seigneur Jésus, avec l'aide de notre Seigneur Jésus. Ce fut le cas de, là pour donner un autre exemple, le cas des disciples. Vous savez qu'à un moment donné, Jésus leur a dit de pouvoir traverser ce fameux lac qu'on appelle la mer de Galilée, également, tellement ce lac est immense pour ceux qui sont partis à Jérusalem. Ce lac, il est tellement immense qu'à l'époque, on l'appelait mer de Galilée. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, alors qu'ils étaient certainement au milieu du lac, comme par hasard, une tempête qui vient à se lever et qui les malmène, et ils sont là ballottés à droite à gauche. Et là aussi, on peut lire cette histoire où finalement, à un moment donné, une extrémiste, les disciples se sont tournés vers le Seigneur Jésus parce qu'heureusement, Jésus était dans la barque. Est-ce que Jésus est dans votre barque? Allez, je vais faire plus simple. Est-ce que Jésus est dans votre cœur? Regardez ce qu'il est dit, Matthieu chapitre 8, versets 24 et 26. « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut quoi? Allez, aidez-moi. Un grand calme. Il eut quoi? Un grand calme. Frères et sœurs, j'aurais voulu être là. J'aurais voulu être là, à l'instant même où Jésus a pris le relais, à l'instant même où il s'est levé, menaça les vents et la mer, la situation a changé. Vous savez, on dit que Jésus dormait, mais Jésus, il ne sommeille ni ne dort. Et tant qu'il est dans notre barque, on peut faire appel à lui, on peut l'invoquer comme a fait et comme ont fait les disciples dans la barque. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Vous avez vu que les prières les plus efficaces sont souvent les prières les plus courtes. Souvent, on essaie de déballer plein de prières. On pense, comme les païens, qu'à force de parole, on sera exaucé. Mais c'est juste une question de foi. Ils ont manifesté la foi. Et Jésus a pris le relais, il s'est levé. Et la menace, il menaça les vents et la mer. Un silence total sur la surface du lac de Galilée. Un silence total aussi dans l'esprit. des disciples. On dit, mais attends, on n'a pas encore fini de connaître celui qui est dans notre barque. Vous savez, même une vie ne suffirait pas pour connaître le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on aura besoin de toute l'éternité pour apprendre davantage à connaître qui est notre Dieu. Il est infiniment grand, il est bon, miséricordieux, il est capable de changer le mal en bien, il est le Dieu Tout-Puissant, on va y revenir. Et dites-moi une chose, le même Dieu qui a été capable de pouvoir calmer cette tempête qui avait lieu sur ce lac, n'est-il pas aussi capable de pouvoir aussi calmer nos cœurs de toute agitation, de toute panique? Tu es peut-être en panique, peut-être tu te demandes qu'est-ce qui va devenir de moi, comment vais-je payer mes factures? Un exemple parmi tant d'autres. Le Seigneur, il a la solution. Mais ce qu'il nous demande, c'est premièrement de garder notre calme, mais aussi surtout de lui faire pleinement confiance. Et c'est sur ce deuxième point que j'aimerais arriver avec vous. Si d'un côté Dieu nous demande de garder notre calme, il nous demande aussi de lui faire davantage confiance. Je pense que si nous sommes là, c'est parce que nous faisons confiance à Dieu. Mais Dieu nous demande une confiance qui soit totale. Une confiance que nous lui passons à 100%. Faire confiance à Dieu, nous le savons tous, consiste à croire ce que dit Dieu. Et ce que dit Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Il a dit par exemple par la bouche de son Saint-Fils, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Faire confiance à Dieu, c'est faire le choix de se fier en Dieu, de s'appuyer sur Dieu, de pouvoir lui dire « Mais Seigneur, même si je ne comprends pas la situation que je suis en train de traverser, Seigneur, je te fais pleinement confiance. » Et c'est là où nous devons mener ce combat, le combat de la foi. À dire « Mais Seigneur, même si mes yeux voient autre chose, moi je continue à regarder vers toi, car je sais que tu es capable d'intervenir dans ma situation. » Mais voyez-vous, j'aimerais plutôt, ce matin, aussi insister sur le fait que faire confiance à Dieu, c'est aussi se rappeler qui est Dieu véritablement. Et pour se rappeler qui est Dieu, nous devons plus que jamais apprendre à le connaître. Et je nous pose la question, est-ce que nous connaissons Dieu?
Oh Joël, tu nous offenses là. Tu me vexes. Mais moi, je me pose la question aussi. Est-ce que nous connaissons le Seigneur?
Je crois qu'on a besoin davantage de pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu et apprendre davantage à le connaître. Parce que plus nous allons connaître le Seigneur, plus notre foi sera solide, sera comme une force lorsque les épreuves, lorsque les vents, lorsque les tempêtes viendront nous menacer, nous serons inébranlables, frères et sœurs. Mais ça passe par la connaissance. On a besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu, on a besoin de la lire, on a besoin de découvrir ce Dieu d'amour. On ne peut pas le découvrir autrement que par la parole de Dieu, par ces moments aussi d'intimité avec lui, ou par le biais de la prière, nous laissons le Saint-Esprit nous instruire, nous apporter des révélations, parce qu'on peut avoir beaucoup de connaissances. Mais ce dont on a besoin pour tenir ferme jusqu'au bout, c'est de révélations. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Regardez ce que dit, moi ce texte, quand je l'ai découvert, j'ai dit « Waouh ! David, combien il était clairvoyant, un homme, vous le savez, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit dans le psaume chapitre 9, verset 11. Je dis, mais c'est pas possible, cet homme, quelle connaissance qu'il avait des choses spirituelles. Il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Il y a une corrélation entre le fait de connaître Dieu, une corrélation même, une intimité entre ces deux verbes, le fait de connaître Dieu et le fait de se confier en Dieu. Plus je vais connaître Dieu, et plus je serai qui il est et j'aurai confiance en lui. Et il le dit avec assurance, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. On sent l'assurance dans ce qu'il dit. Il connaît, il sait qui est son Dieu et c'est pour ça qu'il avance avec assurance. La vérité, c'est que trop souvent, nous oublions qui est Dieu. Et parce que nous oublions qui est Dieu, cela nous fait sombrer dans le doute, dans l'inquiétude. Ou si on a de la foi au départ, on voit que cette foi qui commence à s'ébranler, à s'effriter. Pourquoi? Parce que nos yeux physiques nous donnent à voir autre chose. Et on voit que le doute prend le dessus sur la foi qui doit rester inébranlable au-dedans de nous. D'où l'importance de plonger nos regards dans la Bible, la parole de Dieu, afin que notre vision de Dieu soit, renouvelée, ou peut-être réajustée,
On a besoin de connaître ce Dieu. Et quand nous le connaissons, eh bien nous en sommes en retour fortifiés. Et nous aurons moins de difficultés quelque part à placer toute notre confiance en Dieu. Je me permets juste de lire deux versets qui peuvent nous aider à connaître quel est le Dieu qui un jour est devenu notre Père Céleste. Par exemple, quand on voit le cantique qu'a composé notre ami Moïse, Deutéronome chapitre 32, verset 39. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Je ne serai pas long ce matin. Je crois aussi que ce n'est pas dans la longueur de ce que nous apportons. L'important, c'est la pensée de Dieu qui est importante. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Et Dieu parle, il dit, je fais vivre et je fais mourir. J'ai parlé de notre frère qui a quitté cette terre. Dieu est souverain, il sait le jour où nous allons naître et il sait le jour où il faudra quitter cette terre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, notre Dieu. Deuxième verset qui peut être intéressant cette fois-ci, c'est les fils de Corée qui ont écrit ce merveilleux psaume, le psaume 46. On va lire à partir du verset 2 et 3. Psaume 46, verset 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Vous savez, quand on entend le journal télévisé, il y a de quoi s'inquiéter. Hein? Oh, même nos plages sont infestées de méduses, vous êtes au courant là? On a prévu 38 degrés, on voit qu'il y a un dérèglement, les choses s'accélèrent. Et il n'y a que Dieu qui sait, peut-être même son retour sera même avant 2030. Nul ne sait le retour. Le jour et l'heure du retour du Seigneur, mais il peut revenir ce soir. On voit que les choses s'accélèrent. Le diable se révèle de plus en plus. Et Jésus prépare son Église, qu'il va prendre avec lui sur les nuées pour que nous soyons éternellement avec lui. Et on a besoin plus que jamais de pouvoir considérer que le Dieu que nous servons, c'est l'Éternel des armées qui combat pour nous et qui s'est juré de nous garder, de nous protéger jusqu'au bout, tant que bien sûr nous restons dans le creux de sa main. Toujours en restant sur le psaume 46, regardez un peu plus bas, alors là c'est le summum, psaume 46 versets 11 et 12. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est Dieu qui parle. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est avec toi. Il est avec chacun d'entre nous. Et ce qu'il nous dit ce matin, c'est que nous puissions cesser toute cette panique qui quelquefois nous envahit. C'est que nous puissions arrêter toute forme, alléluia, de stress. Arrêtons de nous inquiéter ce matin. Le Seigneur, il le dit par la bouche de l'apôtre Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des soupirs, des supplications. Et Dieu, alléluia, viendra à notre secours. Et il apportera même la paix dans notre esprit. Et nous serons tranquilles. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. On a besoin de connaître qui est Dieu. Faut-il rappeler que le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Quelqu'un m'a dit, mais c'est quoi omni? Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. On va quitter ce lieu, mais partout où vous irez tout à l'heure, le Seigneur sera avec vous. Mieux encore, il est venu habiter nos vies, donc il est avec nous partout où nous sommes. Il est omniscient, c'est qu'il sait toutes choses, il sait ce que vous traversez, il sait ce que tu vis. Oh Seigneur, tu ne me comprends pas. Quoi? Je vais même plus loin, il sait même des choses que tu ne sais pas dans ta situation actuelle que tu es en train de vivre. C'est pour ça, plus que jamais, on a besoin de lui faire confiance. Tu n'as pas tous les éléments du puzzle. Il te demande de lui faire confiance parce qu'il sait toutes choses. Il sait même le plan, il sait même le moyen par lequel il va te secourir. Il sait toutes choses. Il est omniprésent, omniscient, mais il est aussi omnipotent. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Ta situation, excuse-moi l'expression, tu ne répéteras pas, c'est pipi de chat. Pipi de chat pour le Seigneur. Il le règle en un instant. C'est rien pour lui. Ah, mais tu comprends, le Seigneur, il est tellement affairé avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les bruits de guerre, vous savez, qui se passent, qui se trament là sur le continent africain. Mais tout ça, c'est écrit. La Bible nous prévient déjà.
mais il est au contrôle de toutes choses. Et ton dossier, eh bien, il le sait, il le connaît parfaitement, il peut te le raconter, et il sait même la fin. Et si tu lui fais pleinement confiance, il saura te montrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de changer le mal en bien. C'est un grand Dieu que nous servons. Il est Tout-Puissant, Dieu a toujours un plan. On dit souvent qu'il a un plan B. Quand le plan A ne marche pas, non, il a un plan point barre. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de plan B? Parce que ses plans réussissent toujours. Il n'est pas surpris. Ah mais tu comprends, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, il avait forcément un plan B, mais la Bible nous dit que Jésus savait que de toute éternité, il serait cette victime expiatoire pour chacun d'entre nous, pour le pardon de nos péchés. Donc le Seigneur était au contrôle, il n'a pas été au courant. Ah mince, ils ont péché. Ah, frères et sœurs, le problème c'est qu'on oublie qui est Dieu. On oublie même que le diable, on met l'évidence au diable. Ah, le diable, arrête de voir le diable partout, mon frère. Le diable reste une créature. Et celui qui est devenu notre Père, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'univers, qui n'a ni commencement ni fin. Et ce Dieu-là, il peut toutes choses. Il change le mal en bien, dans n'importe quelle situation. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un mardi soir, ça fait, on remonte peut-être à un ou deux ans, il y a un frère d'une autre église qui m'avait appelé, un bon ami à moi. J'ai vu sa conversion, une conversion extraordinaire. J'ai vu aussi son mariage. Et à un moment donné, eh bien, il y a eu un conflit, puis sa femme est partie avec un autre homme. Et c'est à ce moment-là que ce frère m'a appelé et il m'a dit j'ai besoin d'aide dans la prière. Et il m'avait invité à pouvoir prier et même à partager sa situation auprès de l'église. On a prié, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je vais taire son nom. Peut-être plaise à Dieu, si un jour il vient, il pourra raconter sa propre histoire. Il n'est même pas de cette région. Et ce frère, je me rappelle toutes les fois où je l'avais au téléphone, il avait un amour pour sa femme. Et sa femme qui était partie, et entre-temps, ils avaient divorcé. Vous pouvez le comprendre. Mais cet homme, il a persévéré, il a prié. Et nous aussi, de notre côté, nous avons prié, nous sommes attendus au Seigneur. Et pas plus tard que le début de cette année, il m'a envoyé un message, il m'a dit « Joël, elle est de retour ». Son ex-femme, avec qui il s'était séparé, avait demandé si elle pouvait tout à nouveau, tel l'enfant prodigue, revenir à ses côtés. Et j'ai appris, il y a deux samedis de ça, qu'ils se sont remariés. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Montrez-moi une situation inextricable à vos yeux. Dieu est capable de le changer, alléluia, en un merveilleux témoignage. Quand Jésus est venu, devant le tombeau, qui renfermait la puanteur du corps de Lazare. Personne, même pas Marthe, ne pouvait s'imaginer ce que Dieu allait faire. Elle avait une certaine croyance, une certaine foi en son Seigneur Jésus-Christ. Elle-même va dire, je sais bien que nous ressusciterons le dernier jour. Mais elle était à des lieux de savoir que le Dieu qui est tout puissant est capable aussi d'intervenir. Et Jésus a juste demandé de rouler la pierre. Et alors, la parole créatrice est sortie de sa bouche. Lazare sort. Et à un moment donné, ce mort qui se sentait, puisqu'il était enseveli il y a déjà 4 jours, le voilà qui est en train de sortir. Et là, certains diraient un film d'horreur. Non, c'est pas un film d'horreur. C'est extraordinaire. Le mort qui sort. Et je vois les Juifs, je m'imagine les Juifs qui sont en train de crier, d'autres lèvent de la poussière, d'autres disent gloire à Dieu. C'est impossible, c'est juste impossible ce que Dieu fait. Il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu tout-puissant. J'espère que nous en sommes pleinement convaincus. Faut-il aussi rappeler que Dieu est devenu aussi notre Père? Vous savez, la véritable révélation, ce n'est pas de chercher expressément quel est le nom de Dieu. Est-ce que c'est Jéhovah? Est-ce que c'est ce... La véritable révélation, c'est de savoir que ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, est devenu notre Père céleste. Et parce qu'il est notre Père, il prend soin de nous. Il a plein d'amour pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, ne vous laissez pas mentir par l'ennemi qui essaie de vous faire croire que vous êtes un peu à part. Le Seigneur vous a oublié ou vous êtes derrière le dos du Seigneur. Non. Il connaît chacun d'entre nous. Dieu a un amour pour chacune de ses créatures. Parce que nous sommes finalement tous uniques. Vous savez que nous avons tous une empreinte qui est personnalisé. Nous sommes tous uniques au cœur de Dieu. Et il nous aime tous d'un amour éternel. Et son désir, c'est que nous soyons sauvés. Et d'ailleurs, son amour, à notre égard, il l'a déjà montré. Il l'a déjà prouvé. quand il a donné son fils Jésus-Christ, il y a déjà plus de 20 siècles de cela, 21 siècles, le Seigneur Jésus a accepté de venir et prendre une chair comme la nôtre. Il a marché parmi les hommes et là, il a donné sa vie pour nous. Jésus est monté sur la croix. Nous méritions le châtiment éternel. Mais Jésus a dit, je vais prendre la place de Joël. Je vais prendre la place de chacun d'entre nous. Quel amour! Quel amour infini! Et c'est de cette révélation dont nous avons besoin. De connaître le cœur aimant du Père. Un Dieu qui est là et qui connaît ta peine, il connaît tes larmes et qui est prêt encore à te fortifier. On a parlé et on a chanté pas mal de chants sur la force. La force est en Christ, la force est dans le sang de Jésus, la force est dans la joie de l'Éternel. Mais je crois que la force, eh bien, nous pouvons aussi l'appuyer dans la confiance que nous avons en Dieu. Et de savoir qui il est. Et ce que nous savons ce matin, c'est que c'est un Père et qu'il nous aime chacun d'entre nous. Il ne peut pas te laisser repartir comme tu es venu. Il veut au contraire sécher tes larmes. Romains chapitre 8, verset 32, nous dit la chose suivante, on en a bientôt terminé. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est la question de l'apôtre Paul. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je pense aussi à cet autre passage. C'est Jésus qui parle et qui dit, mais si, méchant comme vous l'êtes, vous, Père, Papa terrestre, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu va-t-il donner, alléluia, toutes choses à ceux qui le lui demandent, entre autres son Esprit Saint? Il veut te donner son secours ce matin. Il veut te donner sa paix. Il veut te donner, alléluia, tout ce dont tu as besoin pour que tu sortes victorieux de ces différentes épreuves auxquelles tu es confronté. Je conclue en disant, c'est un fait, il nous arrive tous, un jour ou l'autre, d'être confrontés aux épreuves, aux adversités. Je disais tout à l'heure, si quelqu'un n'a jamais vécu une quelconque contrariété, ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. Mais ce que nous voudrions retenir, effectivement, ce matin, c'est que le Saint-Esprit a, quelque part, voulu nous rappeler qu'en gardant notre calme, mais aussi en nous appliquant à davantage faire confiance à Dieu, j'ai envie de dire à 100%, ce même Dieu qui nous aime et qui est devenu notre Père sera venir à notre secours, sera venir nous donner à être et à sortir presque victorieux, alléluia, des épreuves et des adversités que nous sommes en train de traverser. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous soyons fin prêts quand il reviendra. Il veut que nous ne nous baissions pas la garde, mais qu'au contraire, que nous soyons fin prêts lorsque il viendra prendre son Église. Peut-être un dernier verset avant que nous puissions prier, Ésaïe chapitre 41, verset 10. C'est Ésaïe qui nous dit la chose suivante. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Mon fils, ma fille, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il y a plusieurs promesses qui sont là comme serrées dans ce verset 10. Et ces promesses, elles sont pour toi. Surtout toi qui connaîtrais des moments d'épuisement, toi qui es fatigué sur le plan spirituel, est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux? Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous aider à faire cette introspection. Le Saint-Esprit est capable seul de pouvoir imprimer ces choses dans nos cœurs. Ne laissons pas cette semence être picorée par les corbeaux spirituels. Et dès que le culte est fini, on a tout oublié. Il y a des clés véritablement que Dieu t'a laissées au travers de ce message de ce matin. Il y en a moins d'eux. Dieu te demande de sortir de cette panique, de cette angoisse ou surtout de garder ton calme. Et le deuxième point, cet autre mot d'ordre, il te dit de lui faire pleinement confiance. Car dès lors que tu t'es tourné vers lui et que tu lui as demandé secours, il t'a entendu. Et en son temps, il va agir pour toi et tu verras sa gloire. En attendant, arrête de paniquer. Arrête de t'affoler. Arrête de laisser cette angoisse ou cette inquiétude te dicter dans ton quotidien. Et si c'est le cas de quelqu'un ce matin, je voudrais prendre le temps de prier avec toi. Si tu es épuisé, si Moralement, tu es fatigué. Certainement, tu as besoin de la grâce de Dieu. Et le Seigneur ne t'a pas oublié. Et il voulait te parler comme il t'a parlé ce matin. Il voulait te laisser ce conseil, conseil que n'a pas su suivre les habitants de Jérusalem. Mais conseil qu'il espère, qu'il souhaite que tu puisses suivre ce matin. Si c'est ton cas, si tu as besoin d'être renouvelé, fortifié par le Seigneur, par rapport à des luttes, des adversités bien précises, une inquiétude qui est là, qui te ronge, une peur, une crainte, une panique, lève-toi à ta place. Et je vais prier avec toi dans le nom de Jésus. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, voudrions laisser le Saint-Esprit agir. Ce n'est pas une mode de se lever, ce n'est pas ça, c'est juste montrer au Seigneur que, Seigneur, j'ai entendu ce que tu m'as dit, et je veux réagir. Je veux mettre ma foi en action. C'est ça le fait de se lever. Quand la foi est là, il y a une action qui doit se produire. Et parce que les disciples ont eu la foi, eh bien, ils ont su se tourner vers Jésus qui était en train de dormir. Mais dès qu'il a été interpellé, il s'est levé. Si lui, Jésus, s'est levé, à plus forte raison, tu as besoin de te lever. Car tu es concerné par ce qui a été dit ce matin. C'est entre vous et votre Dieu. Et le Seigneur est capable de renouveler vos forces spirituelles ce matin. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées, je te prie dans ta grâce de venir à leur secours. Tu leur as accordé, Seigneur, Père mon Dieu, ces deux clés spirituelles. Seigneur, je te demande de les aider à pouvoir mettre ces choses en pratique. Je te prie dans ta grande miséricorde d'apaiser toute tempête dans leur cœur, de leur donner à ne plus s'inquiéter, mais au contraire à se recommander à toi. Seigneur mon Dieu, tu le sais, cette montagne qui se trouve devant toutes ces personnes sont plus grandes qu'elles. Mais toi, tu es capable d'aplanir ce qui est élevé devant nous. Tout ce qui pourrait nous défier, avec Dieu, je franchis une muraille. Avec Dieu, je suis capable de demander à cette montagne de se jeter dans la mer. Et elle se jetterait au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, je te prie dans ta grâce d'aider mes frères et mes sœurs à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, avoir une connaissance renouvelée de qui tu es. Seigneur, qu'ils se rappellent que tu es le grand Dieu, tu es le Dieu des miracles. Rien ne t'est impossible. Seigneur, afin qu'ils puissent retrouver de l'espoir, afin qu'ils puissent plus que jamais persévérer, Seigneur mon Dieu, à prier, à intercéder pour une situation particulière. Je te prie dans ta grâce de te glorifier dans leur vie et qu'ils puissent vivre même le miracle au nom de Jésus. Et s'il y avait quelques découragements, s'il y avait quelques péchés, Seigneur, pardonne. Pardonne, Père éternel. Nous l'avons chanté. Seigneur, c'est ton sang qui purifie. Et tu ne te lasses pas de pardonner celui ou celle qui humblement se reconnaît tel qu'il est et qui se rappelle que tu, de toute façon tu es omniscient. Oh, je te prie dans ta grâce de bénir mes frères et mes sœurs. Viens sécher les larmes. Viens, Seigneur, guérir les cœurs. Viens, Seigneur, Père mon Dieu, changer le mal en bien. Viens, mon Dieu, mettre de la joie, de l'allégresse là où il y a de la tristesse. Mon Dieu, tu vois les grilles, ceux de celles, Seigneur, qui s'attendent à toi. Tu vois, Seigneur, le découragement peut-être. Mais Seigneur, tu revigores, tu fortifies, tu donnes des forces toutes fraîches maintenant à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Et tu leur donnes la victoire et que nous puissions avoir la joie d'entendre de merveilleux témoignages. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen et amen.